aujourd'hui de la naissance des États-Unis d'Amérique. Nous accueillons Alain Piette, qui est doyen de la faculté de traduction et d'interprétation de l'université. Il a fait des études à l'ULB et à Yale. Il est également directeur du Centre d'études américaines de l'université et l'auteur de nombreux livres et articles à la fois sur la littérature et les institutions américaines, la traduction, le théâtre, le cinéma, la culture belge et l'enseignement. Et puis, il est aussi, comme on peut s'y attendre, traducteur. Et il a notamment traduit en américain l'œuvre dramatique complète du dramaturge belge Fernand Crommelinck. Voilà, je lui cède tout de suite la parole pour nous expliquer cette naissance des États-Unis d'Amérique.
Voilà, merci Anne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je vais vous parler de la naissance des États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de cette naissance des États-Unis d'Amérique par le biais d'un de ses personnages les plus connus, Benjamin Franklin. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques secondes, qui est né donc en 1706 et qui est mort en 1790. J'ai décidé de vous parler de la transformation en fait de l'histoire des idées aux États-Unis entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, qui est le siècle de Benjamin Franklin. Comme vous pouvez le voir, il est pratiquement né au début du siècle pour mourir de manière très très pratique, je dirais, pour les besoins de cet exposé, à la fin du siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Pour ce faire, donc j'ai intitulé cette conférence plutôt « La lumière de la raison pratique » ou « La Yankee Practicality » de Benjamin Franklin. Alors, « Yankee Practicality », c'est vraiment toute la substance de Benjamin Franklin. Vous voulez savoir ce que ça veut dire, on peut faire ce qu'un traducteur ne fait jamais. Allez voir dans la barre de traduction de Google pour voir ce que ça donne en français. Je l'ai fait, je ne devrais pas le faire, et j'ai trouvé la praticité yankee. Donc Google non seulement nous donne de très mauvaises traductions, mais en plus invente des néologismes. J'ai essayé de retrouver le mot praticité au dictionnaire, je ne l'ai pas retrouvé. Donc Yankee Practicality, on pourrait traduire cela par l'esprit pratique de Benjamin Franklin. Et c'est pour cela que j'ai choisi de vous parler de lui, c'est que la lumière de la raison illumine ses idées, mais toujours avec un côté pratique propre aux Américains. Et avant de parler de Benjamin Franklin, je voudrais peut-être en guise d'introduction faire un petit retour en arrière à la fondation même de la colonisation de ce qui était l'Amérique à l'époque et qui est maintenant les États-Unis, ou en tous les cas une grande partie du continent. Et on peut dater cette colonisation systématique de 1620. C'est l'un des mythes fondateurs des États-Unis d'aujourd'hui. La fameuse date de 1620 correspond en fait au départ de Grande-Bretagne des Puritains sur le Mayflower, qui est un navire, emportant les 200 pères fondateurs ou pères pèlerins, comme on les appelait, les Pilgrim Fathers, qui donc décident de quitter en novembre 1620 la Grande-Bretagne pour émigrer vers les États-Unis, enfin ce qui n'est pas encore les États-Unis, mais le continent américain, qui a été découvert et qui est bien connu en Europe. Et leur idée, c'est donc de fuir la Grande-Bretagne, fuir surtout les persécutions religieuses, pour aller s'établir de manière définitive en Amérique et y créer un État idéal, un pays idéal de rien. Quand je dis de rien, je m'entends, il n'y a aucune colonisation systématique européenne, bien qu'il y ait déjà eu des Européens en Amérique. Les Vikings sont passés en Amérique. Il y avait bien sûr les tribus dites indiennes, qui peuplaient de ci, de là la plupart des régions du continent. Mais il y avait eu des explorateurs, des aventuriers, des gens qui avaient échoué par hasard, par accident, sur le continent américain, mais il n'y avait pas de véritable colonisation systématique avant 1620. Donc 1620, le premier bateau d'émigrants puritains débarque à ce qui n'était pas encore, mais deviendra Plymouth dans le Massachusetts, et décide de créer un pays idéal à partir de rien. Et quand je dis rien, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de route, il n'y avait que quelques villages indiens de ci, de là, mais pour le reste, il fallait vraiment tout recréer. Et l'idée des puritains, c'est de créer un pays idéal sous l'autorité de Dieu, ce qu'on appelle une théocratie, donc pas une démocratie, mais une théocratie, c'est-à-dire un pays dirigé par Dieu, ou du moins par ses représentants sur terre, les ministres du culte puritain. Donc ça, c'est l'idée de départ de la création des États-Unis, enfin en tout cas de ce qui va devenir les États-Unis en 1776. C'est ce qu'on appelle aussi un petit peu le rêve américain des origines, c'est-à-dire vivre en harmonie avec Dieu et espérer la récompense de Dieu après la mort. Ça, c'est l'idée de départ des puritains. Le XVIIe siècle va donc être consacré majoritairement à la construction de ce nouveau pays par les puritains. Et les premières préoccupations des puritains, évidemment, ce seront de créer des villes, des maisons, des routes, une infrastructure qui n'existe pas. Aussi de subvenir à leurs premiers besoins. Cultiver la terre, organiser la chasse, organiser le ravitaillement. Donc tout ça, ce sont des choses qui se passent après 1620 et qui vont s'accélérer au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux colons qui sont pour la plupart au départ des puritains, mais qui petit à petit vont être d'autres origines, ne vont pas simplement être des immigrants venant de Grande-Bretagne, mais aussi des immigrants venant d'un peu tous les pays d'Europe de l'Ouest au départ, et puis bien sûr d'autres pays par la suite. Et donc, fin du XVIIe siècle, vous avez ce pays puritain qui est organisé selon les règles de la Bible, par les représentants de Dieu sur terre, donc les ministres du culte, qui sont aussi les dirigeants politiques de ce nouveau pays. Ce nouveau pays est en fait, dans le courant du XVIIIe siècle, deviendra en fait 13 colonies qui seront un peu éparpillées sur le territoire nord-américain. 13 colonies, toujours évidemment sous l'égide de la Grande-Bretagne au départ. Et c'est là que la charnière se fait avec le XVIIIe siècle, et notamment avec Benjamin Franklin. C'est que petit à petit, les nouveaux immigrants ne sont plus du tout des puritains, n'ont plus du tout les mêmes préoccupations spirituelles ou religieuses que les puritains. Ce sont des personnes qui quittent leur pays d'origine, souvent la Grande-Bretagne au départ, mais par la suite l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie. Ce sont des gens qui quittent leur pays pour des raisons souvent économiques et qui décident de tenter leur chance dans ce nouveau pays qu'on décrit comme un nouvel Eldorado, où tout est à créer et où la fortune peut vous arriver du jour au lendemain si vous persévérez. Donc ça, c'est le petit retour en arrière. C'est, je dirais, les origines fondatrices de ce qui va devenir les États-Unis d'Amérique. Et j'ai choisi de vous parler du XVIIIe siècle au travers de Benjamin Franklin, parce qu'il traduit véritablement ce passage du spirituel vers une sorte de matérialisme américain, du rationalisme du XVIIIe siècle, donc du siècle des Lumières. Je vais vous faire une très brève biographie de Benjamin Franklin. Je n'aime pas trop les biographies en général, mais la sienne est particulièrement intéressante parce qu'elle explique un petit peu son parcours idéologique tout au long de sa vie. Benjamin Franklin est au départ un autodidacte, c'est-à-dire qu'il reçoit fort peu d'enseignements formels. Il apprend bien sûr à lire et à écrire, mais son apprentissage de l'écriture et de la lecture s'arrête plus ou moins à l'âge de 10 ans. Il a une aversion particulière pour tout ce qui est le calcul, les mathématiques. Il préfère de loin la lecture et l'écriture. Et au début de sa jeune vie, jusqu'à l'âge de 17 ans à peu près, il va travailler dans le magasin de son père, qui est en fait un marchand de suif, une profession évidemment qui n'existe plus vraiment, un fabricant de bougies et de savons. Il apprend aussi divers métiers avec son père et ses frères, le métier de maçon, le métier de tonnelier, de chaudronnier. Donc ça, ce sont vraiment les premières années de l'existence de Benjamin Franklin. Vous voyez des métiers bien concrets, manuels, pas du tout intellectuels ou spirituels. Et puis, à l'âge de 17 ans environ, il rejoint son frère qui est l'éditeur d'un journal. Et au début, il le rejoint comme imprimeur. Donc, encore un métier bien concret, il est plutôt responsable de l'impression du journal que de sa rédaction. Mais très vite, il va passer au stade de chroniqueur du journal en question. Et il va le faire suite à un subterfuge. Il va utiliser un pseudonyme, en anglais « Dame Silence Do Good », et en français, on peut traduire par « silence fait du bien », le silence fait du bien. Il va donc écrire une chronique sur toutes sortes de sujets, et les premières chroniques, il va les glisser sous la porte de son frère, sous ce pseudonyme, donc le frère ne soupçonnera pas au départ que ce nouveau ou cette nouvelle chroniqueur, plutôt, c'est en fait son propre frère. Ces chroniques seront très populaires, elles seront publiées régulièrement dans le journal et elles seront même publiées plus tard sous forme d'un volume intitulé « The Do Good Papers », les chroniques de silence fait du bien. Donc ça, c'est son parcours, je dirais, à partir de l'âge de 17 ans. Et puis, un peu plus tard, il deviendra lui-même le rédacteur en chef du journal qui s'appelle le New England Courant. Et à partir de là, et grâce surtout à ses publications qui vont le rendre immensément riche, il va accumuler une fortune énorme par le biais de ses publications, d'abord par les Do Good Papers dont je viens de parler, aussi par son autobiographie, parce qu'il va publier une autobiographie assez rapidement, qui va être un best-seller et qui va vraiment le rendre très riche. Grâce à sa fortune, il va pouvoir s'engager dans différentes voies, toutes dans lesquelles il aura une influence énorme, mais toutes assez différentes. Il sera tout d'abord un homme politique. C'est le seul Américain qui signe les quatre documents majeurs de la Révolution américaine après 1776, en 1776. Ces quatre documents sont tout d'abord la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, ensuite le traité d'alliance avec la France, qui s'appelle le traité de Paris, le traité de paix avec l'Angleterre après la Révolution américaine, et enfin l'un des documents principaux, si pas le document principal de l'histoire des États-Unis, la Constitution des États-Unis d'Amérique. Donc c'est le seul homme d'État, homme politique, à signer ces quatre documents. Les autres grands hommes politiques de l'époque, Thomas Jefferson ou George Washington, le premier président des États-Unis, en signent certains, mais pas les quatre. Benjamin Franklin, par contre, ne sera jamais président des États-Unis. Il sera ambassadeur en France, notamment, comme envoyé donc des nouveaux États-Unis d'Amérique, mais il n'occupera jamais la fonction suprême de président. Ça, c'est la carrière politique de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, parallèlement à cela, avait aussi une activité d'inventeur et d'homme de science. Vous connaissez, j'imagine, l'anecdote de la découverte du principe du paratonnerre. Dans les illustrations, voire même dans certaines bandes dessinées, on y voit Benjamin Franklin en train de faire voler un cerf-volant en plein orage. Et il a fixé une clé au cerf-volant Et donc, quand la foudre frappe la clé, ben, voilà, vous avez le principe du paratonnerre. L'anecdote est presque véridique. Donc, il a effectivement réalisé ce genre de choses. Ce n'était ni une expérience scientifique, parce que c'est extrêmement dangereux de faire voler un cerf-volant auquel on a attaché une clé et de le tenir à la base. On pourrait franchement y laisser la vie. En fait, c'était une manière pour lui, donc il a réalisé cette expérience en prenant quand même quelques précautions, c'était une manière pour lui d'être un petit peu ironique vis-à-vis de ceux qui ne croyaient pas en ces principes d'électricité ou le principe du paratonnerre. Donc il a effectivement réalisé ce genre de choses, mais c'était un clin d'œil, c'était une semi-parodie d'expérience scientifique. Il est l'inventeur de pas mal d'autres choses. Je vais en parler dans un moment. C'est aussi un écrivain, donc je vous ai déjà parlé des Do Good Papers, ses premières chroniques, son autobiographie, mais aussi bien d'autres choses dont je vais vous parler également. C'est un homme extrêmement généreux. Il faut savoir que la plupart des inventions comme le paratonnerre ou d'autres inventions qu'il a sous son nom, il les a toujours laissées dans le domaine public. Il n'a jamais vendu des brevets ou des choses comme ça. Donc la plupart de ses inventions ne lui ont rien rapporté, si ce n'est évidemment une reconnaissance internationale. Je vous ai dit aussi qu'il était devenu immensément riche grâce à ses publications. Il a fait don d'une bonne partie de sa fortune à la ville de Boston où il est né, ou à la ville de Philadelphie où il a passé la fin de sa vie. Il a aussi légué une bonne partie de son immense bibliothèque personnelle à l'université de Philadelphie, ce qui allait devenir l'université de Philadelphie. Donc c'est vraiment un bienfaiteur également de la société américaine de son temps. Et enfin, dernier aspect de cette conférence, je vais évoquer aussi les fameux aphorismes de Benjamin Franklin. Vous en connaissez peut-être certains en sachant qu'ils sont de Benjamin Franklin ou peut-être en ne le sachant pas. Il est aussi assez célèbre pour toute une série de proverbes, d'aphorismes qui paraissaient dans une de ses publications. Et à la fin, je vous ferai une petite leçon d'anglais à partir d'un de ces aphorismes est du pain béni pour un professeur d'anglais, en fait. Voilà, donc je vais commencer par Benjamin Franklin, l'homme politique. C'est une des figures majeures donc, de la révolution américaine. Donc, pour mémoire, les Américains déclarent leur indépendance par rapport à la Grande-Bretagne en 1776. Ça ne veut pas dire qu'ils sont indépendants dès 1776. Il va s'ensuivre une guerre de plusieurs années avec la Grande-Bretagne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il signe au cours de la Révolution américaine les quatre documents majeurs de cette révolution, la Déclaration d'indépendance, la Constitution des États-Unis d'Amérique, et le traité d'alliance avec la France, qu'on appelle aussi le traité de Paris, et le traité de paix avec la Grande-Bretagne. Il sera envoyé en France comme ambassadeur des nouveaux États-Unis d'Amérique, et en France, il aura vraiment pignon sur rue, il sera un ambassadeur très célèbre à Paris, il se liera d'amitié, et je pense que j'ai été un petit peu trop loin dans la DIA, il se lie d'amitié notamment avec Voltaire, avec lequel il partage le même amour de la raison plutôt que de la spiritualité. Je suis un petit peu trop loin. Et donc, il contribue en France à rendre la cause des États-Unis, de l'indépendance des États-Unis, populaire. Vous savez que la France décidera finalement de s'allier avec les révolutionnaires américains. Les Français combattront contre les Anglais, mais en Amérique. Ils s'allieront aussi d'ailleurs les uns et les autres avec des tribus indiennes. Donc il y avait des tribus indiennes qui étaient les alliés des Américains et des Français, et des tribus indiennes qui étaient les alliés des Anglais. Donc tout ça va durer pas loin d'une dizaine d'années. Donc vous voyez que la naissance des États-Unis d'Amérique ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ça, c'est probablement un des rôles les plus connus de Benjamin Franklin. Là où, je dirais, on connaît moins le personnage, c'est par le biais de ses inventions et de ses expériences scientifiques. Bien sûr, le paratonnerre, je viens d'en parler, est une invention qui est restée mondialement célèbre. Et vous avez d'ailleurs sur l'illustration la reproduction de l'expérience en question. Dans le coin supérieur droit, vous voyez le cerf-volant et Benjamin Franklin donc, qui réalise cette expérience du paratonnerre. Il a réalisé d'autres inventions et d'autres expériences. Il a notamment inventé un instrument de musique qu'on appelle en anglais le glass harmonica. C'est une sorte d'instrument à vent que l'on joue donc en soufflant dedans et qui produit une certaine musique par le frottement de débris de verre qui se trouve à l'intérieur de l'instrument. Je ne sais pas si vous visualisez la chose, mais c'est un des instruments les plus célèbres de son époque. Je ne pense pas qu'on l'utilise encore très souvent maintenant. Moi, je porte des lunettes à double foyer, parce que l'âge est là. Et donc, on peut dire qu'il a inventé le principe des lunettes à double foyer. Il a aussi inventé un poêle à combustion contrôlée, une chaise à tablette. Donc, ce que vous avez devant vous, ce sont des sièges fixes au sol avec une tablette que vous tirez. À l'université, certains étudiants s'asseyent sur des chaises et puis rabattent une tablette devant eux. C'est ce qu'on appelle la Benjamin Franklin Writing Chair, donc une chaise à tablette. Il a fait un certain nombre d'expériences dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la météo, de la cartographie. Il est un des premiers à avoir cartographié le Gulf Stream, le fameux courant marin, et la liste est encore assez longue. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que c'est vraiment exemplaire du XVIIIe siècle américain, du passage de la spiritualité des puritains, des premiers américains, vers un rationalisme à l'aspect extrêmement pratique au XVIIIe siècle, ce qui est d'ailleurs le sujet de ce cycle de conférences. Il est aussi donc un philanthrope et un mécène notoire. C'est l'un des premiers Américains à être abolitionniste, c'est-à-dire à être ouvertement contre l'esclavage. Donc il faut savoir que l'esclavage des Noirs aux Américains date pratiquement des débuts de la colonisation systématique du pays et se poursuit jusqu'à vraiment très tard, jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc c'est la guerre de sécession, 1861-1865, qui va mettre un terme officiel à l'esclavage, qui avait en fait déjà été aboli sur papier en 1806. Donc vous voyez le hiatus entre la volonté d'abolir l'esclavage et l'abolition proprement dite après la guerre de sécession. Benjamin Franklin lui-même avait des esclaves qu'il a affranchis avant la fin de sa vie. Thomas Jefferson, qui est une des autres grandes figures de la Révolution américaine, le troisième président des États-Unis, avait d'énormes plantations de tabac en Virginie et il avait des esclaves, même si au départ, donc dans la Constitution des États-Unis, on parle d'égalité entre tous. Donc il est vraiment un abolitionniste avéré et il ne s'en cachait pas. Je l'ai dit tout à l'heure, il a laissé la plupart de ses inventions dans le domaine public, il n'en a pas tiré un profit personnel. Il a légué sa fortune aux villes de Boston et de Philadelphie, suivant des principes très ingénieux. Une partie de sa fortune, la moitié à peu près, devait aller à la construction d'hôpitaux, d'infrastructures, d'écoles, d'universités, etc. Et l'autre moitié devait alimenter un fonds qui, en l'investissant, devait produire d'autres fonds pour, à nouveau, créer des infrastructures, des constructions. Donc, ce n'était pas, je dirais, un leg, ce que les Américains appellent « one shot », un leg qui est momentané et qui était bien sûr plantureux, mais une fois qu'il était épuisé, ben, ça aurait été tout. Non, non, il s'était assuré que son leg, sa fortune, produirait encore pas mal d'effets longtemps après sa mort. Et donc, il a légué son immense bibliothèque privée à ce qui allait devenir l'université de Philadelphie, qui est une des universités principales à l'heure actuelle aux États-Unis. Et c'est là que j'en viens à ce qui est probablement le lien entre tout cela, ses œuvres principales. Il a énormément écrit tout au long de sa carrière. Et l'une des choses qu'il a écrites et qui l'a rendu non seulement extrêmement célèbre, mais aussi immensément riche, c'est un almanach. Alors l'almanach, c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu à l'heure actuelle. C'est quoi un almanach? Ben, c'est un livre qui contient toutes sortes d'informations pratiques à destination de ses lecteurs. Ça peut aller par exemple d'une partie historique où l'on reprend tous les présidents des États-Unis, depuis le premier jusqu'au dernier, sauf qu'évidemment qu'en 1739, il n'y en avait pas encore eu du tout, mais c'est un exemple. C'est aussi un livre où on peut retrouver par exemple les éphémérides, les saisons, ce qu'on peut planter sur le sol américain à telle saison plutôt qu'à telle autre, les plantes indigènes que l'on peut trouver aux États-Unis, en Amérique, comment les cultiver, la faune, la flore. Donc, vraiment, ce n'est pas un roman, c'est vraiment un bouquin d'informations pratiques qu'il publie de 1732 à 1758 annuellement. Donc, pratiquement 25 ans d'almanach qu'il va intituler en français. La traduction n'est pas franchement terrible. L'almanach du bonhomme Richard, en anglais, c'est Poor Richard's Almanach. Le poor étant très important, poor, donc pauvre, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il commence à publier son almanach dès 1732. Et l'idée, c'est vraiment de donner aux nouveaux Américains, aux nouveaux arrivants, les colons qui débarquent, une espèce de guide de l'Amérique, de mode d'emploi, j'aime bien ce mot-là pour désigner l'almanach de Benjamin Franklin, c'est un mode d'emploi pour les nouveaux arrivants qui ne savent absolument rien de l'Amérique, si ce n'est par ouï-dire, mais très vague, et donc il va leur donner un guide pratique sur les saisons, sur les cultures, sur la façon finalement d'exploiter le nouveau pays. Cet almanach aura un succès phénoménal, il se vendra vraiment à des milliers et des milliers d'exemplaires, sachant que en 1732, l'Amérique n'est pas encore très peuplée, d'une part, et d'autre part, tout le monde ne sait pas encore lire ou écrire. Donc le nombre d'exemplaires vendus à l'époque était vraiment phénoménal, on peut vraiment parler du premier best-seller américain, avec l'autobiographie. Et donc, 25 années d'almanach, et les almanachs avaient une section bien particulière. À la fin de l'almanach, dans tous les exemplaires, il y avait une section d'aphorismes. Vous vous rappelez les aphorismes, les proverbes dont je vous ai parlé au départ. Et donc, ces aphorismes étaient des espèces de proverbes, justement, qui avaient l'air d'énoncer une certaine vérité. Par exemple, « Pierre qui roule n'amasse pas mousse hein, », pour citer un exemple qui n'est pas de Benjamin Franklin, qui avait l'aspect de la vérité, mais qui, évidemment, ne sont pas nécessairement vrais. Mais toutes ces vérités, tous ces aphorismes contenaient quand même une espèce de d'esprit pratique qui, toute sa vie, a guidé Benjamin Franklin, la fameuse « Yankee practicality » dont je vous ai parlé au début, l'esprit pratique Yankee. J'ouvre une petite parenthèse au sujet du mot Yankee, j'en profite. Yankee n'est absolument pas synonyme d'Américain. Si vous dites à un Américain du Tennessee qu'il est un Yankee, il va vous regarder avec des yeux ronds. Donc Yankee est un sobriquet, si vous voulez, qui désigne uniquement les Américains du Nord. Pas du Sud. Et si vous regardez la carte des États-Unis, le Sud commence très haut sur la carte. Le Sud, sur la côte Est, c'est la Virginie. La Virginie où se trouve Washington D.C., la capitale. Donc, si vous traitez tous les Américains qui se situent à partir de la Virginie jusqu'au Sud de Yankee, s'ils sont gentils, ils ne vont pas comprendre, ils vont dire « je ne comprends pas ». Sinon, il risque de se sentir insulté. Donc, Yankee n'est absolument pas synonyme d'Américain. C'est Américain du Nord. Benjamin Franklin, évidemment, était un Américain du Nord. Donc, je reviens à l'almanach. La partie des aphorismes est de loin la plus populaire. Pour ceux d'entre vous qui vous souvenez peut-être d'un monsieur météo, Jules Metz, qui sévissait sur les antennes de la RTBF, à la fin de son petit programme, après le journal télévisé, il avait toujours un dicton. Eh bien, ça, c'est Benjamin Franklin. Le petit dicton de circonstance, qui rime en général, qui sonne bien, mais qui n'est pas nécessairement vrai. Et donc cette section est tellement populaire qu'elle sera finalement publiée dans un recueil où ne paraissent que les aphorismes de Benjamin Franklin, qui va s'intituler, et c'est là que le mot Poor Richard's prend toute sa signification, donc Poor Richard's Almanac va devenir plutôt The Way to Wealth, le chemin qui mène à la richesse. Et donc, cet almanach est vraiment considéré comme le mode d'emploi pour devenir riche, ou en tous les cas prospère, aux États-Unis. Ce n'est plus du tout l'idéal des puritains du XVIIe siècle, qui est de vivre en harmonie avec Dieu dans un pays tout neuf. Donc vous voyez, en moins d'un siècle, en moins d'un siècle carrément, on a basculé de la spiritualité du XVIIe siècle des puritains vers un matérialisme ou un rationalisme avec un aspect matériel, matérialiste très, très, très concret. Donc tout ça s'est passé en pratiquement moins de 100 ans. Et c'est dû principalement à l'afflux de nouveaux immigrants qui ne viennent pas aux États-Unis pour vivre dans une théocratie, mais pour faire fortune, ou en tous les cas pour vivre mieux que dans leur pays d'origine. Et tout cela est accompagné sur le plan, je dirais, idéologique, pratique, par Benjamin Franklin, qui très vite a senti ce qu'il fallait faire dans ce tout nouveau pays. Et donc, voilà, le chemin de la richesse et plus du tout le chemin vers Dieu, par exemple, comme c'était le cas pour les puritains. Donc ça, c'est probablement l'œuvre maîtresse de Benjamin Franklin, ou en tout cas, la partie aphorisme, c'est celle qui va devenir la plus célèbre. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de son autobiographie. Vous voyez la différence aussi de traduction, entre la traduction et le titre original. Le titre original, c'est tout simplement « The Autobiography of Benjamin Franklin », donc publié en 1793. Cette autobiographie, il l'a publiée à plusieurs reprises déjà. Ceci, c'est une édition posthume. C'est la date, en fait, de la traduction. Moi, Benjamin Franklin, citoyen du monde, homme des Lumières, vous voyez que là, ça n'a pas grand-chose à voir avec le titre original. The Way to Wealth, dont je viens de vous parler, Le chemin vers la richesse, a été traduit en français sous le titre La science du bonhomme Richard ou Le chemin de la fortune. Donc la fortune, et c'est vraiment richesse dont on parle et pas la chance, hein, la fortune, le destin, n'apparaît que dans le sous-titre, en fait, dans la traduction française. Et je pense que c'est une erreur. De même que Richard est devenu bonhomme, Richard, et non plus le pauvre Richard. Dans le titre original, la notion de pauvreté était importante, parce qu'en achetant l'œuvre de Benjamin Franklin, les nouveaux immigrants pensaient véritablement pouvoir accéder à la fortune en partant d'un stade de pauvreté comme... celui de Richard, le Richard fictif de Benjamin Franklin. Et donc, il y a toute cette section sur les aphorismes dont je vais vous parler maintenant. Bon, ça, c'est pour tout à l'heure. En fait, Benjamin Franklin est l'auteur de toute une série d'aphorismes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont l'apparence de la vérité, mais ne sont pas nécessairement vrais. C'est un peu comme le Canada Dry. Ça a la couleur de la vérité, ça a le goût de la vérité, mais ce n'est pas nécessairement la vérité. Je vais vous en citer quelques-uns et je vais les traduire en français parce qu'ils sont tous évidemment en anglais. Et il est assez facile finalement, pas nécessairement de les traduire, mais de trouver des équivalents en français. Le premier, et il aimait bien ce genre d'aphorisme en tous les cas autour de ce thème-là, c'est « Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise ». Donc, il faut se coucher tôt, il faut se lever tôt si l'on veut devenir, si l'on veut être en bonne santé, si l'on veut devenir riche et sage. Se lever tôt, se coucher tôt, on devient riche, on est en bonne santé et on est sage. Un autre, The sleeping fox catches no poultry. Le renard qui dort n'attrape pas de volaille. Encore un autre sur le thème du sommeil. There will be sleeping enough in the grave. Il sera bien temps de dormir lorsque nous serons dans la tombe. Alors, un autre peut-être un peu plus long. Beware of little expenses, for a small leak will sink a great ship. Faites attention aux petites dépenses, car une toute petite fuite, une toute petite voie d'eau peut faire couler un grand navire. Vous connaissez peut-être un équivalent en français ? Les petits ruisseaux font les grandes rivières, exactement. C'est tout à fait ça. Hein? Et puis il y en a d'autres qui sont un peu ironiques. Three may keep a secret if two of them are dead. Trois personnes peuvent garder un secret si deux d'entre elles sont mortes. Ou certaines qui sont un petit peu provocantes, comme God heals, the doctor takes the fee. C'est Dieu qui apporte la guérison et le médecin qui prend les honoraires. Celle-ci peut parfois être assez vraie. It is hard for an empty sack to stand upright. Il est difficile à un sac vide de tenir debout. Pas mal de ces aphorismes tournent aussi autour de la notion de temps qui passe. Et c'est très américain, ça aussi. If you love life, then do not waste time, for that's the stuff life is made of. Si vous aimez la vie, ne gaspillez pas votre temps, parce que la vie est faite de temps. Voilà, ce qui est important vraiment au sujet de ces aphorismes, ce n'est pas tellement leur aspect, je dirais, anecdotique ou amusant, c'est qu'ils ont chacun véritablement un aspect très très pratique, très très matérialiste. Et c'est là que Benjamin Franklin, évidemment, prend toute sa signification dans l'histoire des idées aux États-Unis, c'est que il incarne ce passage du spiritualisme des premiers puritains, des premiers américains, vers un matérialisme très très prononcé. Alors, vous pouvez imaginer que la société américaine actuelle est une société hyper matérialiste, et vous aurez tout à fait raison. Vous savez que la devise des États-Unis, c'est « In God we trust », nous faisons confiance à Dieu. D'aucuns l'ont un petit peu transformé en « In gold we trust ». Et effectivement, l'ultra-capitalisme américain, tel que nous le connaissons à l'heure actuelle, n'a pas que de bons côtés. Mais avec Benjamin Franklin, on n'en est pas là du tout. On en est simplement à l'utilisation de la raison pour rendre la vie des Américains possible sur un continent qui est tout à fait à coloniser. Je m'excuse d'utiliser le terme, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Il s'agit de rendre vivable tout un continent, vivable évidemment selon les normes européennes, puisque les premiers Américains sont des Européens d'origine. Et donc, tout ce que Benjamin Franklin vise à faire dans son action à travers son almanach, c'est véritablement expliquer aux Américains comment fonctionne le pays où ils viennent de débarquer. Et c'est en cela, je pense, qu'il est très très important dans l'histoire des idées aux États-Unis Il incarne vraiment cet aspect concret des premiers colons américains avant le matérialisme effréné de la fin du 19e siècle, du 20e et bien entendu du début du 21e siècle. L'impact de Benjamin Franklin est considérable parce qu'il faut bien se rendre compte que s'il y avait bien 13 colonies à la fin du 18e siècle, 13 colonies britanniques sur le continent américain, celles-ci étaient tout d'abord éparpillées sur tout le continent, elles n'étaient pas nécessairement contiguës, mais aussi elles étaient relativement fort peu peuplées. Je vous donne un ordre de grandeur qui n'a rien à voir avec les 13 colonies. New York, la ville de New York, en 1850, donc la moitié du 19e siècle, en 1850, c'est grosso modo un demi-million d'habitants. Un demi-million, 500 000 habitants. À l'heure actuelle, le Grand New York, c'est 10 millions d'habitants. 12 millions si on considère quelques faubourgs. Donc, en un peu plus d'un siècle, la ville de New York a véritablement explosé au niveau de la population. Eh bien, c'est la même chose pour les 13 colonies. Elles sont dispersées, elles sont relativement peu peuplées. Certaines sont plus peuplées que d'autres, mais je dirais que relativement, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est un pays relativement peu peuplé. Et donc l'impact d'une œuvre comme l'Almanach, qui va être publié pendant 25 ans et qui va se vendre comme des petits pains, qui va s'acheter par pratiquement toutes les familles de colons qui vont débarquer aux États-Unis, l'impact est énorme. Si on peut comparer, je dirais, l'impact de Benjamin Franklin, et je vais peut-être vous choquer ici, mais c'est le taux de pénétration, comme on dit à l'heure actuelle, de Benjamin Franklin dans les 13 colonies, il doit être à peu près l'équivalent de ce que le taux de pénétration de Walt Disney est à l'heure actuelle, et puis pour coller à l'actualité, peut-être de Tintin en Belgique. C'est vraiment ça, c'est le best-seller qui est sur la table de chevet de tous les nouveaux colons. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai choisi de vous parler de Benjamin Franklin. Et donc j'espère ne pas être trop long, parce qu'on m'a demandé aussi de vous laisser le temps de poser des questions et de faire des commentaires. Donc voilà, donc oui, je peux continuer. Voilà, donc je voudrais peut-être terminer sur une petite leçon d'anglais, si vous me permettez. Voilà un des aphorismes les plus célèbres de Benjamin Franklin, qui est en fait un extrait d'un discours. Évidemment, je dois vous dire cela avec les précautions d'usage. La légende dit qu'il aurait fait un discours. Les 13 colonies se sont révoltées, bien entendu, contre la Grande-Bretagne. Mais dans le fond, les 13 colonies n'étaient pas extrêmement dépendantes de la Grande-Bretagne. Elles se situaient très très loin sur le plan géographique. Il y avait un océan qui séparait les 13 colonies américaines de la Grande-Bretagne. En fait, la Révolution américaine, elle s'est faite pourquoi ? Surtout parce que les Américains en avaient assez de payer des taxes sur les produits de leur culture, notamment le tabac, le coton et d'autres, le thé. Ils en avaient assez de payer des taxes prohibitives à un gouvernement qui se trouvait bien bien loin. Et donc ça, c'est au départ la base de la Révolution américaine, ce qu'on appelle aussi la fameuse Boston Tea Party. Vous avez sans doute entendu parler de la Tea Party, qui est un parti politique ou une frange d'un parti politique à l'heure actuelle qui essaye d'en revenir aux valeurs des premiers colons américains. Voilà, la Boston Tea Party, c'est quoi ? Ce sont des révolutionnaires américains qui, déguisés en Indiens, décident de jeter toute la cargaison de thé des navires en partance pour la Grande-Bretagne dans la baie de Boston. Et donc, pour faire une immense tasse de thé, si vous me permettez l'expression. Donc, mais malgré cela, les 13 colonies jouissaient d'une autonomie certaine et finalement de beaucoup de liberté, parce que la Grande-Bretagne était vraiment loin. Les colonies s'administraient très bien en autogestion. Et elles n'étaient pas nécessairement en très bonne relation avec les autres colonies. Et donc, la révolution américaine n'a pas été cet élan unanime des 13 colonies contre le colonisateur anglais. Non, non, il y a eu pas mal de dissensions entre les différentes colonies, chacune voulant garder son autonomie propre et le plus de liberté possible. C'est d'ailleurs là-dessus que se sont fondés les 13 premiers États américains. Et si vous regardez maintenant les 50 États qui forment les États-Unis, bah, chacun de ces États est très jaloux de ses propres prérogatives, de sa propre autonomie. Et donc, à un moment donné, les dissensions étaient telles que Benjamin Franklin a décidé de faire un discours pour essayer de rassembler les 13 colonies sous une même bannière et dans un même élan. Et il aurait prononcé cette phrase au cours de ce discours. « We must all hang together, gentlemen, or most assuredly, we shall all hang separately. » En fait, c'est un jeu de mots hein, sur le verbe « hang ».« Hang » veut dire « pendre ». Mais la particule « together » change la signification de « hang ». Hang together veut dire être uni. Nous devons absolument être unis, gentlemen, ou, presque certainement, nous allons être pendus, et là c'est le sens littéral de pendre, nous allons être pendus séparément. Donc, cette petite phrase qui contient ce qu'on appelle un phrasal verb, hang together, c'est un verbe qui, grâce à l'addition d'une particule, change son sens premier. Cette phrase joue sur le mot pendre, hang. Le premier hang, c'est nous devons être unis. Sinon, ben nous allons terminer au bout d'une corde, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est l'aphorisme peut-être le plus célèbre de Benjamin Franklin. Et apparemment, il a été entendu puisque la révolution, finalement, a réussi. C'est un petit peu aussi ce que cette illustration qui est tiré d'un des livres de Benjamin Franklin dit, « Join or die », il faut unir les forces, l'union fait la force, hein, comme dit un certain pays, pas loin d'ici, ou mourir, hein, finalement. Je vous ai aussi donc projeté là deux statues de Benjamin Franklin, qui prouvent qu'il était véritablement un homme transatlantique, comme on dit maintenant, donc qui était à la fois reconnu et célèbre du côté de la France, de l'Europe, et notamment à Paris. Donc la première photo est une statue de Paris, et la deuxième est une statue que l'on retrouve à Philadelphie. Vous verrez que, quand même, il y a pas mal de similitudes entre les deux statues. Elles sont très, très ressemblantes. Vous savez aussi que la statue de la liberté, en fait, à New York, est aussi un symbole de l'alliance franco-américaine. Si vous avez déjà pris le bateau mouche sur la Seine, vous avez un petit modèle réduit il n'est quand même pas si petit que ça, un modèle un peu plus petit de la statue de la liberté de New York. Et alors, je dirais que je vous ai gardé la dernière illustration pour la fin. C'est très exemplatif ou exemplaire, si je peux me permettre l'expression, de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin a son portrait sur le fameux billet de 100 dollars. C'est un hommage évidemment au personnage historique, mais quelque part qu'il ait son portrait sur ce qui est probablement le billet le plus célèbre au monde, le billet de 100 dollars. C'est aussi un petit peu symbolique du fait que la direction des révolutionnaires américains au cours du XVIIIe siècle, et particulièrement guidés par les idées de Franklin, les Américains ont décidé d'abandonner la spiritualité des puritains, dont le but était simplement de vivre dans un nouveau pays dirigé par Dieu, pour se tourner vers un matérialisme que d'aucuns pourraient qualifier aujourd'hui de matérialisme à outrance. Je dirais que ce qui est un petit peu ironique aussi, c'est que ce billet de 100 dollars est probablement le billet de banque le plus copié, le plus falsifié au monde. Si un jour vous voyagez aux États-Unis, enfin vous l'avez peut-être déjà fait, Le problème pour nous, Européens, quand on voyage aux États-Unis, c'est qu'il faut changer de l'argent en dollars. Demandez à votre agent de change ou à votre banque de ne pas vous donner de coupure de 100 dollars parce que ce sont les plus falsifiés au monde. Les Américains n'en veulent pas. Donc je pensais que c'était un petit sourire pour terminer cette conférence. L'homme qui est responsable du matérialisme américain et qui a son portrait sur le billet de 100 dollars est aussi, ce billet de 100 dollars est aussi le billet le plus falsifié au monde. Je veux dire que le matérialisme de Benjamin Franklin a probablement subi pas mal d'avatars après le 18e siècle en question. Voilà, je crois que c'est...
Je remercie Alain Piet pour son introduction aux États-Unis à travers un personnage aussi diversifié. Et je vous cède tout de suite la parole pour des questions ou des commentaires.
J'ai une question aussi sur un autre aspect de Benjamin Franklin qui n'a pas été développé ici. C'est que Benjamin Franklin est un franc-maçon célèbre.
Oui, tout à fait. Oui.
Est-ce que ça a eu un rôle dans l'histoire des États-Unis, puisqu'il était, je crois, il a été, non, il est d'ici Voltaire, si je me trompe.
Oui, donc en fait, c'est ce qu'ils avaient en commun. Hein, donc Voltaire et Benjamin Franklin étaient tous deux francs-maçons. En fait, je dirais que oui, ça a eu certainement une influence. Je crois que l'influence la plus marquante et celle qui reste se trouve surtout dans l'architecture de Washington, la capitale des États-Unis, Washington D.C., où pas mal de bâtiments sont inspirés soit de l'architecture grecque, hein, antique, soit de l'architecture franc-maçonne. Donc il y a un certain nombre de choses. Il était franc-maçon, mais de l'obédience de la maçonnerie anglaise à l'époque, qui n'était pas athée, hein, qui était plutôt agnostique ou qui s'en référait au grand architecte. Mais donc effectivement, très certainement, le rationalisme qui est à la base de toute sa pensée a quelque chose à voir avec la franc-maçonnerie. Et Washington D.C., quand on regarde bien le plan de la ville, quand on regarde un certain nombre de grands bâtiments, il y a clairement une influence de ce côté-là. Et en France, il avait aussi des liens très étroits avec Voltaire, qui lui-même était franc-maçon.
À propos d'abolitionnisme, il y a à cette époque-là aussi un Français, le marquis de Chastellux, qui est allé combattre aux côtés des Américains, qui était même à Yorktown en 1781, et qui, dans un récit, explique ce qu'il a fait pendant les intervalles entre ses campagnes militaires. Et il a vu la situation des Noirs. Il n'est pas esclavagiste, mais il n'est pas abolitionniste non plus. C'est un marquis donc, de la bonne société qui s'insurge parfois contre la situation des Noirs, mais qui aussi ne dit rien quand les Français à la Jamaïque font le contraire. Parce qu'à ce moment-là, la révolte des nègres, des noirs à la Jamaïque, il ne dit rien à ce propos-là. Mais aux États-Unis, il n'est pas anti, mais enfin, il n'est pas pour non plus. Enfin, c'est un personnage assez remarquable parce que c'est aussi un philosophe qui était apprécié de Voltaire, comme vous dites. Mais Voltaire aussi, quand même, il a eu, il était contre l'esclavage, mais il acceptait de recevoir les dividendes de ses parts de nègres sur les bateaux qui partaient vers les États-Unis. Alors, on oublie souvent ces petits côtés des grands hommes. Hein?
Bon. Oui, mais, si je peux me permettre de réagir. Donc, c'est, évidemment, vous avez tout à fait raison, bien entendu. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure que l'abolitionniste Benjamin Franklin n'en avait pas moins toute une série d'esclaves. On peut aussi parler d'un contemporain de Benjamin Franklin. J'en ai déjà un petit peu parlé, c'est Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, qui, lui, avait des plantations de tabac énormes en Virginie. qui étaient exploités par des esclaves. Récemment, un certain nombre de livres sur Jefferson ont montré qu'il ne se contentait pas d'avoir des esclaves, mais il a aussi eu des enfants avec les femmes noires qu'il utilisait comme esclaves. Donc, il y a une contradiction, certainement, mais qui peut s'expliquer, me semble-t-il, en partie par l'appartenance à une époque où les idées reçues sont que les Noirs sont une race inférieure. Et donc, oui, l'esclavage, c'est pas bien, mais enfin, si on en profite, tant mieux. Il y a quand même un petit peu de ça. Et donc, très clairement, si vous prenez la Constitution des États-Unis, et en particulier les 10 premiers amendements, donc la Constitution des États-Unis est assez courte, elle est très facile à lire, au contraire de la Constitution européenne avortée il y a quelques années qui faisait 850 pages illisibles. La Constitution américaine, c'est 12 pages, en petit caractère soit, mais très très lisible, très facile à lire, si on connaît un petit peu l'anglais de l'époque. Et donc, tout de suite après la publication de la Constitution des États-Unis, les hommes politiques de l'époque, donc Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington et d'autres, ont réalisé que la fondation de la démocratie américaine telle qu'envisagée par la Constitution n'était pas tout à fait complète au travers de la Constitution. Et très vite, dans les 3-4 années qui ont suivi la première mouture de la Constitution, on a voté 10 amendements collectivement, donc ils sont sortis, il n'y en a que 27 au total, depuis le 1776, il n'y a que 27 amendements à la Constitution. Les 10 premiers sont sortis 3 ans après la Constitution et étaient consacrés uniquement aux droits civils. La liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de culte, enfin je ne vais pas vous énumérer tous les droits, mais donc les Américains s'étaient rendus compte que la Constitution ne disait rien sur ces droits civils. Mais il faut savoir aussi que si on regarde un peu plus loin dans la liste des amendements, donc ceux qui ont été votés plus tard, l'abolition de l'esclavage n'arrive pas tout de suite. Elle arrive beaucoup plus tard, au XIXe siècle. Le suffrage universel des hommes arrive aussi beaucoup plus tard. Le suffrage universel avec les femmes comprises encore plus tard. Donc un certain nombre de droits qui nous paraissent tout à fait fondamentaux, ont en fait été votés au XIXe, voire même au XXe siècle. Et donc, le fait que l'abolitionnisme, Benjamin Franklin ou d'autres, comme le marquis dont vous parlez, c'était vraiment une caractéristique de l'époque, Jefferson, qui prônait l'égalité pour tous les citoyens, excluait des citoyens les Noirs, et les femmes probablement.
Alors, à propos de Yankee, oui. Un guide a une fois expliqué, mais je ne sais pas, ça me semble un peu tordu, que c'était la déformation de Yankas, parce qu'il y avait des Hollandais autour de New York qui s'appelaient tous Yann et qui mangeaient beaucoup de fromage. Alors, ça me paraît vraiment tordu, hein.
Le problème de l'étymologie de certaines expressions ou de certains noms comme Yankee, je ne vais pas vous confirmer ou infirmer, je pense que c'est probablement pas tout à fait vrai. C'est un petit peu comme l'origine de l'expression OK. OK, OK, ce serait un général américain pendant la guerre de sécession qui, ne sachant pas très bien orthographier, aurait écrit All Correct, OK. Au lieu de AC. Je pense que c'est tout à fait fantaisiste, mais bon, il faut toujours se méfier de ce que les guides expliquent aux touristes. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu l'occasion d'aller à Cambridge, en Grande-Bretagne. J'ai fait un tour sur la rivière, sur les fameux bateaux à fond plat qui sont pilotés par des étudiants au moyen d'une longue perche. Les étudiants racontaient des choses. On entendait ce que les étudiants des autres barques racontaient. Ils racontaient n'importe quoi. Donc, je me méfierais quand même des explications. Mais en fait, on a toujours dit que Manhattan, donc l'île de Manhattan, qui est à l'origine de la création de New York, était en fait, au départ, une possession hollandaise. J'ai lu il n'y a pas si longtemps un article qui dit qu'en fait, c'était très belge. Et que Et donc, c'est vrai que sur les origines, il y a tout ce qu'on appelle les mythes fondateurs. Hein. En Belgique, le mythe fondateur, c'est la révolution brabançonne, la révolution de 1830, la muette de Portici, etc., etc. C'est un petit peu enjolivé par rapport à ce qui s'est passé. Ben, les États-Unis ont leur mythe fondateur également. 1620, le Mayflower, les 200 pères pèlerins. Petite parenthèse ici au passage, la famille Bush, donc le président père et le président fils, disent que l'un de leurs ancêtres était sur le Mayflower. Donc être sur le Mayflower aux États-Unis, c'est un petit peu faire partie de l'aristocratie, c'est le sang bleu des Américains. C'est sans doute vrai parce qu'un président des États-Unis, avec les moyens que la presse a à l'heure actuelle pour démonter toutes ces déclarations, n'oserait sans doute pas le dire, si ce n'était pas vrai. Mais donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Si vous étiez tombé sur un autre guide une heure plus tard, il vous aurait peut-être raconté autre chose. Mais, donc, je ne pourrais pas vous le confirmer.
À Battery Park, la stèle a été déposée par la députation permanente du Yedo. Et je rappelle que Jérôme Daven a été un des fondateurs. Ce n'est pas le fondateur de New York. Et alors, si vous avez parlé des Yankees, dans les Yankees, il y avait des Wallons. Ce sont des Wallons, surtout du Namurois et du Brabant Wallon, qui ont immigré, et alors qui se sont établis dans le Wisconsin, donc du côté des Grands Lacs. Et le Wallon s'est maintenu au travers des générations. Ouais. Moi, je me souviens, une fois, à la communauté française, une fête de la communauté française à Bruxelles, ils étaient âgés, je ne sais pas si ça s'est maintenu, mais ils chantaient en Wallon. Ils ne comprenaient pas le français, mais ils comprenaient le Wallon de Namur et du Brabant Wallon, donc qui est assez semblable au nôtre. Maintenant, pour montrer que les États-Unis, c'est quand même une société multiple, ça n'a rien à voir, mais à la Nouvelle-Orléans, j'ai été dans une classe qui avait été financée par la communauté française, et j'ai entendu chanter par des petits Américains une belle petite gaillole. Eh bien, je vous assure que ça vous laisse des frissons.
Mais si je peux me permettre, avant votre question, peut-être de réagir sur ce que monsieur vient de dire, en fait, deux petites choses. À la Bibliothèque royale de Belgique, à Bruxelles, il y a au troisième étage un centre d'études américaines, Center for American Studies. Ce centre a été dirigé pendant plus de 20 ans par une dame qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, elle est toujours vivante, Francine Lercanger. Francine Lercanger avait un hobby. C'était d'aller rechercher sur la carte des États-Unis tous les noms de villes, de villages, de lieux dits. Enfin, tout ce qui peut figurer sur une carte géographique qui avait une consonance belge. Il y a par exemple une ville qui s'appelle Hoboken, comme la ville, le quartier d'Anvers. Il y a elle a en fait répertorié pas loin de 1000 noms qui ont une origine belge, francophone ou flamande. Donc c'est quand même assez considérable. Moi-même, il y a assez longtemps quand même, il y a à peu près 12-15 ans, j'ai été lecteur d'un mémoire de la faculté de sciences économiques, faculté de gestion maintenant Wahoké, sur l'immigration des travailleurs qualifiés wallons aux États-Unis au 19e siècle. Et en fait, donc notamment qui se sont établis au Wisconsin. Et en fait, la grande différence des immigrants belges de cette époque-là par rapport à d'autres immigrants de la même époque, c'est qu'en fait, ils n'ont pas émigré par nécessité économique ou nécessité politique ou même religieuse. Ils n'ont pas fui des persécutions politiques ou religieuses, mais ils ont véritablement été importés par les Américains parce que les Américains manquaient de main-d'œuvre spécialisée, notamment dans les métiers du verre. Et pas simplement le verre artistique comme Val-Saint-Lambert, mais le verre pour la construction, la sidérurgie et d'autres industries évidemment florissantes à l'époque chez nous. Donc les Wallons de Wisconsin notamment ne sont pas des réfugiés économiques ou politiques, ce sont véritablement des travailleurs spécialisés, importés par les Américains de l'époque.
Oui, une petite question pour commencer. Vous avez parlé des pères fondateurs des États-Unis et vous avez dit que c'était les premiers arrivants et les premiers à avoir... Alors là, je me permets quand même, je crois, je ne peux pas me tromper, en vous disant que la Virginie existait déjà comme colonie anglaise, et également, je crois, le Maryland, puisque c'est du nom de la femme de Charles Ier, la reine Marie de France. Hein. Non. Alors, il faut faire une distinction. Ils n'ont pas été les premiers, les gens.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le mythe fondateur était que c'était les premiers. Mais en fait, avant eux, il y avait eu les Vikings, il y avait eu beaucoup d'autres personnes. Mais on peut parler vraiment de colonisation systématique à partir de 1620. C'est ce que je dis. Ce sont eux qui sont censés être les pères fondateurs. Mais il y a eu beaucoup de monde avant eux. Ce qui est devenu les États-Unis, il y a même eu des Indiens en Angleterre, ramenés par des explorateurs, notamment au moment du départ du Mayflower en 1620, il y avait un Indien qui parlait anglais, parce qu'il avait passé un certain nombre d'années en Angleterre. Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient véritablement les premiers, mais ce sont eux qui ont, si vous voulez, la réputation d'avoir fondé ce qui est devenu plus tard les États-Unis.
Oui, ceux qui sont arrivés en Virginie, y allaient pour trouver de l'or.
Ah,
ils
oui,
en ont
sûr.
Été pour leurs frais, c'est le moins que l'on
bien,
dit.
Bien
ils
sûr.
Ont eu le tabac après.
Les deux. En fait, il y a un film très intéressant qui est un film télé qui s'appelle New World, qui montre très bien ce combat entre l'idéal des puritains d'une part et le matérialisme des non-puritains qui les ont accompagnés ou qui les ont précédés ou qui les ont suivis. Et c'est finalement la loi du nombre qui a prévalu. Les puritains, étant relativement limités en nombre, ont été submergés par tous ceux qui allaient faire fortune en Amérique.
Et le deuxième point, de toute façon je l'aurais soulevé, c'est la question de la franc-maçonnerie. Je ne crois pas que Voltaire soit le franc-maçon le plus intéressant, puisque de toute façon il a été initié à l'âge de 72 ans.
Oui, oui,
vous allez me dire que c'est sur le tard.
Ouais.
Mais il y en avait d'autres, notamment la raison pour laquelle il y a eu si rapidement une réconciliation entre les États, enfin ce qui était devenu les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre, c'est que les francs-maçons anglais qui connaissaient très bien Benjamin Franklin, Jefferson, etc., avaient déjà conclu en fait une paix avant qu'elle soit officialisée, je dirais, par le traité entre les États-Unis. Vous retrouvez la même chose avec la France, n'est-ce pas ? Lafayette était franc-maçon également.
Oui, tout à fait.
Donc là, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire que l'on voit une chose aussi importante qu'est une création maçonnique à l'époque où la maçonnerie était encore quelque chose, je dirais, de
confidentiel, oui.
Très valable, au niveau des gens qui la fréquentaient, c'est ça ce que je veux dire.
Oui, oui.
Et elle n'était toujours pas rejetée par l'Église catholique à ce moment-là. La Mozart était franc-maçon, Da Ponte, etc., etc. Et alors, dernier point, quand vous parlez de bouche et de sauce en bleu,
je
voulais vous dire que si vous devenez citoyen américain et que vous avez un titre de noblesse, vous devez automatiquement l'abandonner.
Oui.
Les titres de noblesse sont strictement interdits aux Américains.
Tout à fait. Donc il n'y a pas de titre de noblesse. Il y a eu des tentatives, notez bien, il y a eu des tentatives d'en instaurer. Mais ça explique aussi peut-être l'absence totale de titres de noblesse, explique peut-être malgré tout la fascination qu'ont les Américains par rapport à la royauté. En fait, il y a eu un projet de loi qui visait à retirer la nationalité américaine à tout Américain d'origine qui accepterait un titre de noblesse à l'étranger. Par exemple, la princesse Grace de Monaco, Grace Kelly, actrice de cinéma, devenue princesse à Monaco, évidemment ayant quitté les États-Unis. Mais il y a eu un projet de loi qui n'a jamais vu le jour, qui aurait visé à retirer la nationalité américaine automatiquement à toute personne acceptant un titre de noblesse à l'étranger. Grace Kelly est la plus connue, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu l'épouse du roi de Jordanie, Hussein de Jordanie, qui était en fait d'origine américaine. Il y en a eu quand même quelques autres. Et les Américains sont très fascinés par les monarchies, pas trop la monarchie belge bien entendu, mais la visite de Lady Di en Amérique était un événement pour les Américains. Mais ça, c'est une des rares choses que la Constitution, enfin une des choses que la Constitution ne peut pas faire, c'est accorder des titres de noblesse aux Américains. Il n'y en a pas. Maintenant, il y a peut-être un autre type de noblesse. La noblesse des origines, la famille Bush et le Mayflower. Il y avait 200 familles sur le Mayflower. Si vous comptez le nombre d'Américains qui disent avoir eu un ancêtre sur, Sur le Mayflower, je pense que toute la flotte de guerre américaine n'aurait pas suffi à tous les transporter. Donc ça, c'est une noblesse, je dirais, des origines, mais il y a aussi la noblesse de l'argent aux États-Unis. On est, je dirais, meilleur, ou on se croit meilleur, si on a plus d'argent que les autres. Il y a donc une plutocratie, si j'ose dire, une noblesse de la richesse. Oui.
Oui, donc vous dites que les pères fondateurs du Mayflower envisageaient de fonder un pays idéal. Et donc, est-ce que l'indépendance est arrivée par un concours de circonstances matérielles et qui aurait pu être évité, ou est-ce que c'était un projet théorique qui circulait depuis longtemps?
Ben, je dirais qu'au départ, les puritains, ils ont coupé les ponts avec la Grande-Bretagne. Donc n'oubliez pas, donc 1620, c'est loin avant l'indépendance. C'est 1776, la déclaration d'indépendance, c'est 150 ans plus tard. 150 ans après 1620, bon, les puritains sont toujours là, ils ont toujours une certaine influence sur la société américaine, mais ils ont déjà été complètement submergés, dépassés par tous les autres arrivants. Je dirais que dans l'exode des puritains, il y avait cette idée de « on laisse la Grande-Bretagne derrière nous ». Il n'y avait pas une déclaration d'indépendance formelle, mais l'intention était véritablement de couper les ponts avec la Grande-Bretagne.
L'unification des États-Unis a quelque chose de consternant pour un Européen quand on voit la vitesse à laquelle cette unification s'est faite et s'est maintenue. Il ne semble pas être jamais contesté là-bas, alors que les populations qui ont voulu ça étaient inimaginablement disparates. Pour un Belge, en tout cas, c'est consternant.
Alors, je vais me permettre de commencer une autre conférence là-dessus. Je dirais l'unité américaine, telle que vous la voyez en tant qu'Européen, n'est pas du tout la façon dont les Américains voient les choses. L'Amérique est un pays fédéral, comme la Belgique. Mais la différence, c'est qu'il y a 50 États. L'un des plus petits, le Connecticut, a à peu près la taille de la Belgique, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc la Belgique, c'est vraiment un tout petit territoire par rapport à l'immensité du territoire américain. Il y a 50 États. Vous demandez à un Américain à l'extérieur de son pays, en Europe, en Belgique, il vous dira « je suis américain ». Le même Américain sur le territoire américain va vous dire « je suis du Tennessee, je suis de l'Ohio, je suis de New York, je suis de Californie ». Il ne va pas dire du tout « je suis américain ». Les 50 États américains ont une autonomie absolue. La seule chose qui les lie, c'est la Constitution américaine. Et la Constitution américaine dit aussi que tous les cas qui ne sont pas envisagés dans la Constitution, et il y en a beaucoup parce que la Constitution, c'est 12 pages, tous les cas sont de la prérogative de la juridiction des États. Je vais vous donner un petit exemple. Question piège. Quelle est la langue officielle des États-Unis? Si je dis piège, donc, c'est pas l'anglais. Il n'y en a pas. La Constitution ne dit absolument rien sur une langue officielle aux États-Unis. Si vous allez vous promener à Miami, vous n'allez pas entendre beaucoup d'anglais, vous allez entendre beaucoup d'espagnol. Il y a des villages entiers près de la frontière mexicaine où on ne parle pas l'anglais. Vous allez à Chinatown, à Los Angeles ou à New York, on parle chinois. Vous allez dans certains quartiers à Long Island, on parle russe. On ne parle pas l'anglais. Donc, il n'y a pas de langue officielle en Angleterre, aux États-Unis, et c'est surtout pas l'anglais. Certains États ont décidé de voter un principe de leur propre constitution pour instaurer une langue officielle. Le Tennessee, par exemple, a officiellement maintenant comme langue officielle l'anglais. Et beaucoup de gens ont contesté cela. Ils ont dit « Oh, c'est anticonstitutionnel, ça ne se trouve pas dans la Constitution, donc vous ne pouvez pas décréter ça ». La Constitution dit aussi que tous les cas qui ne sont pas envisagés par la Constitution sont de facto de la responsabilité des États. Et donc, ce n'est pas vrai que les États-Unis sont unis. La fameuse métaphore du melting pot, le creuset, où toutes ces civilisations viennent se mélanger pour ne former qu'une, les États-Unis d'Amérique, eh bien, il n'y a plus personne aux États-Unis qui parle de melting pot. Hein. On appelle, la métaphore utilisée aux États-Unis, c'est salad bowl, le bol de salade. Pourquoi ? Parce que bah, la salade, vous pouvez mettre tout ensemble, faire l'assaisonnement, une petite vinaigrette, sel et poivre, mélanger le tout, ça fait un plat, une salade. Mais vous pouvez, si vous avez la patience, retirer chaque morceau séparément et vous aurez une image de ce que c'est que l'Amérique en Amérique. Les Américains n'aiment pas leur gouvernement. Vous pouvez dire, c'est très belge, ça. Les Américains veulent le moins possible d'intervention du gouvernement central dans leurs affaires. Donc, ils ont cet aspect d'unité uniquement vers l'extérieur. Le patriotisme américain, c'est un vernis qu'on a vis-à-vis de l'extérieur. À l'intérieur, c'est chacun pour soi, individuellement, mais aussi au niveau des États. Le Tennessee ne fonctionne pas du tout comme New York ou comme d'autres États. Donc, oui, ça s'est fait très vite sur le plan politique et sur le plan géographique, mais il y a des tas de gens qui veulent faire sécession. Il y a, par exemple, un mouvement noir américain qui s'appelle... ça y est, je ne retombe plus sur le nom. Enfin, bon, il y a un mouvement d'activistes noirs américains qui veulent faire sécession. Ils veulent qu'on leur crée un État noir américain, The Nation of Islam, ça c'est le nom. The Nation of Islam veulent qu'on crée un État noir américain qui n'aurait rien à voir avec tous les autres et où l'islam serait la loi. Donc, c'est vrai que du côté de l'Europe, on a cette idée d'une Amérique unie. Pourquoi ? Parce qu'on voit surtout les Américains dans des conflits, notamment les deux guerres mondiales, où ils sont venus nous aider. Mais très clairement, à l'intérieur, ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, il y a pas mal de groupuscules et de toutes sortes de cultures qui s'entrechoquent aux États-Unis.
S'il vous plaît, vous pouvez parler un peu plus sur les puritains ?
Oui, donc ben, les puritains, cette secte protestante, en fait, hein, au départ, qui quitte l'Angleterre pour échapper à la religion dominante là-bas. Et donc l'idée, c'est de créer cet État idéal. Et en fait, tous les aspects de la vie quotidienne seraient réglés par la lecture de la Bible ou l'interprétation de la Bible par les ministres du culte. Ça, c'est le puritanisme. On a souvent cette image des puritains comme austères, pas rigolos du tout, tristes, gris, habillés de noir, etc. Oui, certainement, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, par exemple, on a retrouvé des sermons où le ministre du culte fait un sermon sur l'alcoolisme. C'est pas bien de boire trop. Donc ça veut dire que quelque part, bah, il buvait quand même un petit verre. Il y a aussi des sermons sur la façon de s'habiller. Ça veut dire, si on lit entre les lignes, ça veut dire que bah, tous les puritains ne s'habillaient pas nécessairement de manière austère et que de temps en temps, il y en a peut-être qui mettaient des vêtements avec une touche de couleur ou d'extravagance. Donc tous ces sermons qui visent à recadrer la société puritaine, en fait, nous disent quand même que les gens essayaient de s'échapper du cadre de temps en temps. Donc, c'était quand même une vie beaucoup moins austère. Et peut-être ce qui est la fête la plus célèbre aux États-Unis, qui est celle de Thanksgiving, hein, qui va avoir lieu fin novembre, c'est quoi ? Ben, c'est un grand banquet. Donc, c'est les puritains qui, pour remercier les tribus indiennes de leur aide lors de leur installation la première année. Donc les Indiens ont aidé les colons puritains à cultiver le sol, leur ont montré les plantes indigènes, comment engraisser le sol, etc. Pour remercier les Indiens, les puritains, lors de la première récolte, ont organisé ce grand banquet qui s'appelle Thanksgiving. Et ce grand banquet, pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis lors de Thanksgiving, c'est une dinde colossale, mais pas un petit animal, c'est une dinde énorme, sans doute nourrie aux hormones américaines, avec des légumes, des pommes de terre. C'est un repas de fête. Hein. Donc, c'est pas du tout le pain sec et les rations chiches. Donc, il y avait aussi des fêtes dans la société puritaine.
Si je peux me permettre, qu'est-ce qui caractérisait les puritains par rapport aux autres mouvements religieux à l'époque? Et puis, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui?
Je dirais que la plupart des sectes protestantes se centrent surtout sur la lecture de la Bible. Et donc, pour certaines sectes, il faut prendre la Bible au pied de la lettre. Pour d'autres, elle peut être interprétée. Les puritains pensaient que chaque individu dans la communauté se devait de lire la Bible et de suivre ses préceptes à sa façon. Évidemment, après un certain temps, ils se sont rendus compte que si chacun faisait un petit peu sa propre interprétation de la Bible, ça poserait des problèmes. Donc, les ministres du culte, qui étaient aussi les responsables politiques de la société puritaine, petit à petit ont encadré cette pratique d'interprétation de la Bible. Donc, c'est surtout ça qui distinguait les puritains, surtout des autres sectes anglaises à l'époque. Il y avait aussi, on peut rentrer dans les détails, mais l'idée de la prédestination, enfin, il y a pas mal de choses encore.
Et aujourd'hui, que sont-ils devenus?
Je dirais que maintenant, les sectes protestantes sont extrêmement nombreuses. Aux États-Unis, il y en a énormément. L'influence, je dirais qu'ils sont toujours là sous forme d'influence. Je pense que les chasses aux sorcières ou les choses comme ça sont quelque part une influence puritaine. Il y a eu les fameuses véritables chasses aux sorcières dans la région de Boston au XVIIe siècle, où véritablement on a brûlé des femmes accusées d'être des sorcières. Mais il y a eu d'autres chasses aux sorcières aux États-Unis. Plus près de nous, dans les années 50, il y a eu la chasse aux communistes, qu'on a appelée la chasse aux sorcières. Quelque part, cette chasse à des gens qui ne sont pas dans la norme, à mon avis, il y a un fond de puritanisme quelque part.
Les Amish sont-ils une déviance de ce puritanisme ou n'ont-ils rien à voir?
Je ne suis pas un spécialiste des Amish, mais je pense que, au départ, ce sont toutes des sectes protestantes. Les Amish ont plutôt, me semble-t-il, une origine allemande. Et donc, il y a toutes sortes d'émigrations qui sont faites vers les États-Unis. Donc, il n'y a pas que les puritains qui ont quitté la Grande-Bretagne. Il y a aussi un certain nombre de sectes protestantes qui ont quitté l'Allemagne. Donc, je pense que les Amish, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher l'origine. Mais franchement, là, je ne suis pas un spécialiste.
Je crois que tout le monde a pu poser ses questions. Dans ce cas, je remercie encore Alain Piette pour cette conférence sur les États-Unis d'Amérique, sa naissance et le personnage de Benjamin Franklin.